RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonsoir, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir.
Nous recevons Marine Le Pen, présidente du Front National et candidate à l'élection présidentielle. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. Alors, ce qui devait arriver arriva après son épouse, ses costumes, ses enfants. Voilà sa mise en examen. François Fillon, le candidat de la droite, donc, a été mis en examen ce matin pour détournement de fonds publics et recel d'abus de biens sociaux. Il avait dit dans un premier temps, d'ailleurs, que s'il était mis en examen, eh bien, il se retirait, puis il a changé d'avis. Un candidat à l'élection présidentielle peut-il continuer dans ces conditions ?
D'abord, c'est à sa famille politique de répondre à cette question, d'autant qu'en fait, le problème de François Fillon, c'est que dès qu'il a gagné la primaire, sa campagne était déjà très affaiblie en réalité, affaiblie par un programme qui était d'une très grande brutalité. Et il est vrai que les révélations qui sont intervenues ont fait en quelque sorte forte impression parce qu'elles rentraient en contradiction avec le programme qui réclamait de très gros sacrifices aux Français. Moi, je crois que les épisodes ininterrompus maintenant finissent par nuire quand même aux problématiques de fond de la campagne. Donc sa mise en examen est intervenue, mais j'ai envie de vous dire tant mieux, comme ça on va peut-être pouvoir enfin
parler. Oui, mais il va rester là.
Oui, d'accord.
Donc tant mieux pour vous aussi, vous dites ?
Mais non, mais écoutez, c'est lui-même qui s'est mis
en examen.
Mais pardon, mais c'est lui-même qui s'est mis dans la nasse. C'est lui-même qui a dit si je suis mis en examen, je pourrais pas être candidat. Bon, et obligé de changer d'avis après. Honnêtement, son comportement à lui a été depuis le début de cette affaire totalement incohérent.
Donc cette mise en examen, il n'a pas commis une faute en se maintenant. Il ne commet pas de faute en se maintenant, mais il a commis une erreur en annonçant qu'il se retirerait, selon vous.
Ça me paraît être une évidence. Et puis il dit qu'il fait l'objet d'un assassinat politique et il se rend chez les bourreaux avec la corde au cou. Bon, tout ça est incohérent. Maintenant, je vais vous dire une chose. Les Français, ils ont eu un certain nombre d'informations. Je crois qu'ils se sont fait leur opinion. Voilà. Et cette mise en examen changera en réalité peu de choses sur l'opinion qui est la leur. Voilà. Enfin, on va pouvoir passer, encore une fois, peut-être à autre chose et parler de social, d'économie, d'immigration, d'insécurité, c'est-à-dire ce qui est le sujet de préoccupation principale des Français.
On va en parler. Mais quand vous dites que ça ne change pas grand-chose ou ça ne va pas changer grand-chose, finalement, c'est un peu ce que dit aussi Christian Jacob, qui est le nouveau coordinateur de la campagne de François Fillon. On l'écoute.
Bon, écoutez, ça ne change rien. Tout ça est une histoire annoncée depuis la saisine du PNF. On sait, et la transmission au juge d'instruction, on le savait dès le début, qu'il y aurait une mise en examen. Donc ça ne change absolument rien. Maintenant, en avant, et on continue la campagne. C'est ça qui est important. Et dans les meetings, on est sur les sujets de fond, sur la retraite, sur le financement de la protection sociale, sur la fiscalité, sur la sécurité, sur le terrorisme. Et donc, on fait campagne.
Finalement, après ce que vous considérez comme l'erreur qu'il a commise en annonçant qu'il se retirerait en cas de mise en examen, est-ce que finalement il n'a pas eu l'habileté il y a quelques jours d'annoncer cette mise en examen pour en quelque sorte désamorcer l'événement ?
J'en sais rien, encore une fois. Je pense que sérieusement, les Français se sont fait leur opinion. Voilà. Ils se sont fait leur opinion sur François Fillon, l'homme. L'homme qui était présenté, qui se présentait comme quelqu'un d'austère, quelqu'un attaché aux valeurs traditionnelles, et dont les Français se sont rendus compte qu'en réalité, c'était un homme qui aimait l'argent. Les Français jugeront cela. Ils jugeront, encore une fois, la dichotomie entre l'image qu'il a voulu donner de lui et lui. Point. Les événements, je l'avais dit dès le départ.
C'est pas gênant quand même, Marine Le Pen, d'avoir un candidat à l'élection présidentielle, un des principaux candidats de la droite républicaine, mis en examen pour une campagne vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis de l'exemplarité qu'on doit.
D'accord, mais sauf à tomber dans le gouvernement des juges. Je rappelle quand même sur ce plateau, puisque nous sommes encore dans un état de droit, qu'il existe une présomption d'innocence. Bon, c'est d'ailleurs lui qui a rompu ce respect de la présomption d'innocence. Car lorsqu'il dit « si je suis mis en... un candidat ne peut pas être mis en examen » pour tirer en fait le tapis sous les pieds de Nicolas Sarkozy, vous vous souvenez quand même au départ, hein, il s'agissait de faire du mal à Nicolas Sarkozy. Ça s'est retourné contre lui. Mais vous imaginez qu'un juge en France pourrait ainsi décider qu'un tel ou un tel ne peut pas être candidat, on le mettait en examen. Ça n'a pas de sens. Ouais. Voilà. Je l'ai dit moi dès le départ.
Mmh. J'ai dit quand même moyennement, vous l'attaquez moyennement.
Les Français se sont fait leur opinion. Voilà. Les Français se sont fait leur opinion. Il y a manifestement des
soupçons. Ils se sont fait leur opinion, on n'en sait rien.
Si moi je crois que oui, il y a manifestement, si vous voulez, un sujet d'enrichissement personnel autour de cette affaire. Chaque révélation démontre encore une fois que François Fillon est un homme d'argent, qui a mis à contribution peut-être sa femme, peut-être ses enfants, pour pouvoir enrichir son foyer. C'est encore une fois très éloigné de l'image qu'il voulait donner de lui. Les Français jugeront maintenant de sa personnalité.
En tout état de cause, aujourd'hui, François Fillon n'est plus votre cible, ça n'est plus votre adversaire. Non. C'est sur Macron que vous concentrez aujourd'hui votre campagne et vos attaques dans la campagne.
Je crois pas. Moi, je pense qu'ils sont les deux faces d'une même médaille. Je veux dire, ils représentent tous les deux le système. Et ils représentent tous les deux quelque chose de très important. C'est la volonté d'intérêt privé prendre en main cette campagne, voilà, de prendre le pouvoir. Les intérêts privés qui sont autour d'eux, que ce soit Jean-Jacques Mourad du laboratoire Servier pour Macron, que ce soit Drahi du groupe de médias pour Macron, que ce soit la Drette de la Charrière ou Monsieur De Castres pour Fillon, on voit bien qu'en réalité, ils sont les candidats d'intérêt privé. Moi, je suis la candidate de l'intérêt national, de l'intérêt général. Donc, ils se ressemblent beaucoup en réalité, que ce soit sur le fond de leurs propositions ou que ce soit dans les personnes qui sont derrière et qui, semble-t-il, les manipulent à leur profit.
Marine Le Pen, les affaires judiciaires concernant le Front National ne vous impliquent pas, vous, directement, et il n'y a pas, vous l'avez dit, enrichissement personnel. Alors, on peut quand même se poser la question, pourquoi ne pas vous rendre sereinement voir les juges qui vous convoquent dans un souci d'exemplarité quand on veut avoir accès à la plus haute fonction de l'État?
Parce que je pense qu'il y a une instrumentalisation de la justice. Et par conséquent, moi, je suis cohérente avec moi-même. Quand je dénonce l'instrumentalisation, je n'y participe pas. Cette affaire de soi-disant assistant parlementaire lancé par Schulz, un adversaire politique, a 3 ans.
Oui, mais alors Macron va dire la même chose alors qu'aujourd'hui,
Non, mais d'abord, laissez-moi terminer. Oui, oui. Il y a un an, j'ai demandé, moi, personnellement, l'ouverture d'une information judiciaire. J'ai demandé la désignation d'un juge d'instruction. On m'a dit non, sans raison. Et comme par hasard, on saisit le juge d'instruction à quelques semaines de l'élection. C'est gros comme une maison. Alors, ils attendront un peu, hein, et j'aurai l'occasion de les rencontrer, mais plus tard.
Alors, gros comme une maison, ça nous emmène...
ça nous emmène vers l'immobilier. Voilà. Puisque
votre
propos,
maison.
Voilà, à propos d'affaires, Le Monde, dans son édition d'aujourd'hui, affirme que vous avez largement sous-évalué le patrimoine immobilier que vous partagez avec Jean-Marie Le Pen. Vous auriez, toujours selon Le Monde, entamé une procédure de conciliation avec l'administration fiscale qui pourrait aboutir à une proposition de redressement fiscal. Est-ce que ces informations sont justes?
Bah, ces informations, sont surtout très anciennes, parce que en réalité,
c'est juste
un faux scoop.
Non, mais cette affaire, elle date d'il y a 3 ans. Donc c'est toujours pareil, si vous voulez. On a l'impression qu'on fait ressortir par un effet de magie des contestations du type de celle-là juste avant les élections. La haute autorité a saisi sur ma déclaration de revenus le parquet. La haute autorité dirigée par M. Nadal, qui avait appelé à voter pour François Hollande. C'est drôle d'ailleurs parce que sur les contestations sur la déclaration de M. Macron, M. Nadal, qui a appelé à voter pour M. Macron, pour M. Hollande, n'a pas saisi le parquet. Donc là, on voit quand même qu'il y a un comportement différent selon qu'il y a M. Macron d'un côté ou Mme Le Pen de l'autre. Je conteste l'évaluation mon patrimoine qui est constitué de parts de sociétés civile immobilière par la haute autorité. J'ai donc saisi la commission de conciliation.
Et vous discutez ?
Et on présente un dossier devant la commission, on explique ses arguments, la commission se retire et viendra donner son avis. Voilà, tout ça est très normal. Je pense qu'il y a beaucoup de Français, honnêtement, qui connaissent ce type de problématique.
Oui, c'est vrai. Mais bon, est-ce qu'en gros, la maison a été sous-évaluée? Alors le fisc, lui, il évalue à 5 millions et côté Le Pen, donc, elle est évaluée à 2,5 millions. C'est du simple au double.
Il ne s'agit pas de la maison. Moi, je suis porteur.
Il y a deux procédures.
Non, mais pardon, mais moi, je suis porteur de 12,5% des parts d'une SCI qui possède cette maison, que je ne peux pas vendre. Voilà. Sans d'ailleurs l'accord des associés majoritaires.
Oui. Est-ce que ça enlève l'estimation d'une maison?
Non, mais la vraie question, c'est quelle est la valeur vénale de 12,5% d'une SCI familiale? Par exemple, est-ce que vous accepteriez de me les acheter? Je crois pas. Je crois qu'il n'y a pas une personne qui accepterait de m'acheter ça. Donc en fait, cette valeur vénale, elle ne vaut en réalité rien. Donc je pense qu'on me fait honnêtement, une fois de plus, un mauvais procès. J'ai un peu le sentiment qu'on vient me compter les cheveux sur la tête en permanence et en saisissant systématiquement le parquet, ce qui est encore une fois pas le cas. Alors même que le patrimoine de Monsieur Macron est beaucoup plus intéressant que le mien, parce que lui, il a réussi à dépenser 3 millions d'euros en 2 ou 3 ans.
C'est quand même très étrange. L'association Anticor, d'ailleurs, qui traque la corruption, a saisi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Alors, moi, je pose une autre question. Pourquoi la Haute Autorité, dirigée par M. Nadal, qui a appelé à voter pour M. Hollande en 2012, ne s'est pas auto-saisie?
Écoutez, on va lui demander.
Parce que c'est M. Macron. Voilà.
Ouais. Est-ce que vous avez pas tendance à voir des complots partout et des gens qui se tiennent les coudes partout contre national?
Excusez-moi, mais enfin ça me paraît tout à fait évident et clair.
Ça veut dire que vous souhaitez aujourd'hui qu'une enquête soit ouverte sur le patrimoine d'Emmanuel Macron?
Je souhaite quand même à tout le moins qu'il réponde aux questions auxquelles sont soumis l'intégralité des autres, parce qu'il ne peut pas comme ça avancer dans cette campagne sans que personne ne lui pose la question. Or, il fait l'objet d'une mansuétude de la part des médias. Alors, on a bien compris que c'était le chouchou des médias, je pense que tous les Français ont compris ça, mais personne ne lui pose jamais aucune question, alors que les faits, moi je ne dis pas qu'il y a des choses illégales, mais sont à tout le moins étonnants. Il a dépensé, semble-t-il, un SMIC par jour pendant 2 ans. Moi, je veux bien. Mais je pense que ça mérite au moins.
Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire pour favoritisme pour son déplacement à Las Vegas. Vous voyez, tout le monde a des ennuis judiciaires dans cette campagne.
À force de réclamer qu'il ne fasse pas l'objet d'un traitement particulier, peut-être que ça finit par porter ses fruits.
C'est quand même une campagne présidentielle très particulière de ce point de vue-là. Il est extrêmement difficile de parler des sujets.
Non, mais c'est une campagne présidentielle très problématique. Oui. Parce que je rappelle quand même qu'il en va de l'avenir des Français et de la France pendant 5 ans. Et on va arriver à une échéance très proche de l'élection sans que les Français n'aient eu droit à leur débat. C'est-à-dire à parler des retraites, du terrorisme, de la sécurité, de la politique internationale, du pouvoir d'achat, de l'emploi, etc., etc. On les prive en quelque sorte. Et moi, j'ai quand même le sentiment, je vous le dis, les médias sont en train de se regarder eux-mêmes, quoi. Ils jouent le jeu, mais pour eux et entre eux. Bon, et personne ne pense qu'il faut peut-être à un moment donné quand même permettre aux Français de savoir qui pense quoi. Qui propose quoi pour qu'ils puissent voter le jour venu?
On n'invente pas les informations.
Ils viennent à nous. Non, bien sûr, mais enfin, on voit bien que ça feuilletonne.
Les affaires peuvent être révélatrices d'un trait de personnalité, d'un tempérament.
Il y a un effet feuilleton.
D'un penchant.
Il y a un effet feuilleton, quand même, vous voyez.
D'un mot sur Emmanuel Macron, la caricature publiée sur le site, sur le compte Twitter du Parti Les Républicains, qui représentait Emmanuel Macron sous les traits d'un banquier au nez crochu. Est-ce que cette image-là, elle vous a choqué?
Bon, c'était extrêmement maladroit. Je crois que M. Fillon s'en est d'ailleurs excusé et l'a fait retirer. Bon,
juste maladroit.
Voilà. Qu'est-ce que je vous dis,
on
donne des superlatifs. J'espère que les Républicains n'avaient pas le souhait d'effectuer une caricature antisémite.
C'est comme ça que ça a été perçu par...
Bien sûr, mais je préfère penser quand même que c'est de la part de cette équipe web une maladresse. Vous voyez, je suis plutôt plus responsable que d'autres. Mais voilà, Monsieur Fillon s'en est excusé, il a retiré cela. Je peux vous dire qu'en tout cas, moi, mes équipes n'auraient pas fait ça, ça c'est sûr.
Alors, une entreprise privée peut-elle interdire les signes religieux donc dans l'entreprise, à ses salariés dans l'entreprise? Eh bien, la réponse est oui, c'est en tout cas l'avis.
Oui, mais...
Ah bah attendez, c'est l'avis, laissez-moi expliquer, qui a rendu la Cour de justice européenne après avoir été saisie de deux cas, d'un Belge, l'autre français. Donc bien évidemment, là, c'est le voile hein, qui est en question. Est-ce que vous vous félicitez de cette décision de principe? Visiblement non. Je vois votre première réaction.
C'est pas une décision de principe, c'est un oui mais, et le mais me gêne énormément. Voilà. C'est oui mais si l'entreprise démontre qu'il y a une exigence de neutralité dans le poste qui est occupé par la personne qui porte le voile. Alors moi, je pense que ces oui mais ne sont pas admissibles. De toute façon, je dénie à la Cour de justice le droit de venir me dire ce qui est autorisé ou interdit dans mon propre pays, et j'ai intégré dans mes 144 engagements l'inscription de la laïcité dans le droit du travail. Je pense que les entreprises doivent être protégées de revendications qui sont incessantes et qui sont de plus en plus nombreuses, des revendications religieuses portées par des fondamentalistes islamistes pour que la paix et la sérénité règnent dans les entreprises.
On vous le dit ça, c'est de l'ordre du sentiment, de l'appréciation, ou on vient vous le dire?
Mais bien sûr que oui, on me le dit. On me le dit parce que ça crée des conflits et des tensions dans les entreprises entre salariés. On me le dit parce que les chefs d'entreprise ne savent pas sur quel texte s'appuyer pour refuser le port du voile dans leurs entreprises. Donc je leur dis à ces chefs d'entreprise, à ces salariés, moi j'inscrirai dans le code du travail le respect de la laïcité. Donc les signes ostensibles religieux, eh bien, n'auront pas droit de citer dans les entreprises.
Mais vous qui êtes toujours prompte à taper sur l'Europe, l'Europe elle a des valeurs et elle va dans votre sens. Dans ce cas-là même, si vous dites c'est un oui mais, elle va dans votre sens quand même.
Bah, pas tout à fait encore une fois parce qu'elle a l'air de dire que s'il n'y a pas...
Vous pinaillez un peu,
Non mais ce sont des questions de principe, on pinaille pas avec les questions de principe justement. Le salarié est dans un poste ou dans une position où il n'est pas exigé qu'il soit neutre, il a droit de porter de voile. Bon, donc ce sont les entreprises qui vont devoir analyser et justifier qu'à tel poste le voile est interdit, à tel poste le voile est permis. Eh bien, autorisons quand même, ça me paraît tout à fait légitime, que s'il y a un règlement intérieur, il y a un règlement intérieur, et les chefs d'entreprise ont le droit de mettre en œuvre un règlement intérieur qui interdise le voile dans leur entreprise. Et ça n'est pas à la Cour de justice de venir dire « Ah mais là, ce sera autorisé, et là, ce sera
interdit. » Mais là, ça va être la Cour de cassation, de toute façon, de Belgique et en France, qui aura au final...
D'accord, mais le problème, c'est qu'ils finiront
final
par...
Final cut.
Ben oui, mais en règle générale, vous savez comment ça se passe. Bon, ils se soumettent en réalité aux décisions de la Cour de justice.
A contrario, dans votre vision des choses, votre vision de la laïcité, une entreprise pourrait décider qu'elle autorise les signes ostentatoires religieux dans son enceinte.
Ils mettent en place un règlement intérieur.
Oui, mais ce serait possible.
Mais ils peuvent mettre en place un règlement intérieur qui soit un règlement intérieur général. Voilà.
Qui autoriserait donc les signes religieux?
Ils peuvent éventuellement le faire, c'est une entreprise privée. Mais ce que je veux dire, c'est que les chefs d'entreprise doivent pouvoir s'appuyer sur un texte sur la laïcité dans l'entreprise, dans le code du travail. Voilà, moi je pense qu'il n'y a pas de revendications religieuses qui doivent entrer dans les entreprises. Parce que là aujourd'hui...
Qu'est-ce qu'ils vous disent les chefs d'entreprise, par exemple?
Ils nous disent, c'est l'enfer. On nous demande des horaires pour prier, on nous demande des salles de prière, on nous demande des jours spécifiques... il y a des revendications vestimentaires, que ce soit pour les hommes d'ailleurs ou pour les femmes, ça devient un véritable cauchemar. Et les chefs d'entreprise sont démunis parce que l'État ne leur donne pas le support légal pour pouvoir s'opposer à ce type de revendications.
C'est limité à certaines zones géographiques, les problèmes que vous évoquez, que les patrons viennent vous dire, là, évoquer avec vous, ou ça se diffuse partout?
Non, il ne faut pas croire que ce soit uniquement dans des grandes villes ou dans un certain nombre de banlieues. Non, c'est absolument... Absolument, aujourd'hui, on retrouve ce type de problème dans des entreprises qui sont à peu près partout sur le territoire.
C'est la fin de cette première partie, Marine Le Pen. On se retrouve dans quelques instants avec vous.
Oui, on évoquera notamment...
Non, c'est bon, on est un petit peu en avance, mais on ne va pas... on va pas évoquer un autre sujet et on sera obligé de vous couper. Donc, on fait un retour sur l'actualité de la journée et on se retrouve dans quelques instants. À très vite.
RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique sur France 24 et RFI et notre invitée Marine Le Pen, présidente du Front National et candidate à l'élection présidentielle. Notre invitée avec Frédéric Rivière. On va parler de la Turquie, on va parler de l'Europe, on va parler de votre programme. Mais pour finir, puisque on parlait de la décision, enfin de l'avis donné par la Cour européenne de justice, je voudrais qu'on finisse avec un sujet sur cette fameuse clause Molière. Donc plusieurs régions, donc en France, ont imposé la clause Molière. Sur les chantiers, il sera obligatoire de parler français pour travailler. D'abord, Edwin, je voudrais savoir si vous considérez que c'est une bonne décision. Je vois votre petit sourire. On se demande ce que vous allez nous dire. Et d'ailleurs, le ministère du Travail, on ne sait pas qui, le ministère du Travail, dit que c'est un enfumage politique.
Donc non, c'est-à-dire que c'est vraiment la mesure type des Républicains. C'est ce que j'appelle du patriotisme honteux. Comme on n'ose pas dire clairement les choses et demander la suppression de la directive détachement des travailleurs, ou comme on n'ose pas taxer les emplois comme je le propose étrangers dans notre pays avec une taxation de 10%, ce qui est dans mon projet, eh bien on prend des chemins contournés pour interdire de parler français sur des chantiers à charge pour l'entreprise de faire venir des traducteurs, etc. C'est du patriotisme. Honteux, voilà. Pourquoi ils n'osent jamais aller au bout de la logique.
Il faudrait faire quoi? Je comprends pas.
Arrêter la directive détachement des travailleurs qui fait que les grandes entreprises font appel à des travailleurs à très bas coût qui effectivement ne parlent pas français, ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes dans notre pays. Disons clairement les choses. Ils sont toujours, encore une fois, ces républicains, ils ont toujours un comportement honteux à l'égard du patriotisme, y compris du patriotisme économique. C'est quand même étonnant.
Alors, à ce propos de la clause Molière, Pierre Gattaz, le président du MEDEF, dit qu'il s'agit d'une dérive communautaire ou nationaliste. Vous commencez, dit-il, comme ça, et puis après, vous faites du favoritisme, et puis ensuite, vous fermez les frontières françaises, et puis vous finissez par sortir de l'euro. On a l'impression, au fond, qu'indirectement, c'est de vous qui parle.
Oui, mais Monsieur Gattaz est toujours du côté du mondialisme, est toujours contre la France, toujours contre le patriotisme. Est-ce qu'il est vraiment représentatif des entreprises qui participent de ce syndicat? Je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de chefs d'entreprise qui sont des patriotes, qui ont le souhait de développer l'économie de la France, donner de l'emploi aux Français. Là, il se comporte véritablement et il s'exprime comme un ennemi de la France. C'est assez effrayant de l'entendre parler de communautarisme lorsque l'on parle de patriotisme. Voilà, c'est révélateur. J'aime bien avoir des gens comme ça contre moi. Vous voyez, c'est quelque part, c'est une petite médaille sur mon veston quand même.
C'est plus facile d'avoir des adversaires que des amis, au fond.
Ah bah surtout des adversaires comme ça, on n'a pas besoin d'amis.
Alors, on va passer à la Turquie. Les Pays-Bas ont refoulé des ministres turcs qui voulaient participer à des meetings en faveur du référendum le 16 avril prochain, donc en Turquie, sur le renforcement des pouvoirs du président Erdogan. On écoute donc sa réaction très virulente après, bien sûr, que ces ministres aient été refoulés.
Ils ne connaissent rien à la politique et à la diplomatie internationale. Ils sont très nerveux et lâches. Ils entretiennent des vestiges du nazisme. Et ce sont des fascistes.
Marine Le Pen, est-ce que la France devait interdire au ministre des Affaires étrangères turc de tenir un meeting
Non mais déjà c'est peut-être...
Oui, en France, un mot sur la réaction.
Oui, sur la réaction quand même, sur le nazisme, c'est quand même...
Oui, bah, c'est M. Erdogan, enfin, je veux dire, ce qu'il fait est bien pire encore que ce qu'il dit. En l'occurrence, il menace et il a menacé directement un certain nombre de pays européens, dont les Pays-Bas.
Et ça vous choque ?
Des menaces assez lourdes, mais c'est surtout la révélation de l'erreur de jugement épouvantable qui a été commise par Madame Merkel. Madame Merkel qui a cru bon d'aller négocier avec la Turquie dans notre dos, sans l'accord des autres pays européens, notamment sur le plan de l'immigration, et qui aujourd'hui se prend le boomerang en plein visage.
Oui, mais il contient aujourd'hui, Erdogan, il contient les flots de réfugiés grâce à cet accord.
Ah, c'est merveilleux. Alors, donc, du coup, il nous fait du chantage.
C'est un peu
du coup, il faut se soumettre à M.
Ouais.
Erdogan, à ses exigences, à ses caprices, parce que sinon, il menace d'ouvrir les vannes de l'immigration.
C'est ce qu'il fait.
Eh bien, ça démontre que, encore une fois, ceux qui ont pris cette décision de nous mettre entre les mains de M. Erdogan ont commis une très grave faute politique. Voilà. C'est aussi simple que cela. Et si nous maîtrisions nos frontières, nous n'aurions pas à subir les menaces de M. Erdogan.
Ce piège là pour en sortir aujourd'hui, ce piège dont vous parlez, comment faut-il faire ?
On maîtrise immédiatement nos frontières nationales.
Oui, mais en attendant.
Non, mais pas en attendant. Pas en attendant. Ouais. Nous maîtrisons des frontières nationales. Stop à Schengen. Il faut supprimer immédiatement Schengen. On met en place une politique dissuasive d'immigration, on coupe les pompes aspirantes et on maîtrise nos frontières. Et on rend aux Français la liberté de choisir qui vient chez eux, qui se maintient chez eux.
Sur le meeting, il fallait l'interdire au ministre des Affaires étrangères.
Les puissances étrangères n'ont pas à venir faire des meetings publics, électoraux
France.
Ils peuvent très bien aller rencontrer leurs compatriotes à l'ambassade, au consulat, mais ils ne font pas de meeting public. La France a accepté, elle est la seule à avoir accepté. L'Allemagne a refusé, les Pays-Bas ont refusé, la Suisse a refusé.
Et comment vous l'expliquez ?
Et nous, la France, mais parce qu'on est toujours comme ça, c'est le laxisme généralisé. Il était déjà venu, M. Erdogan, en 2012, je crois, à Strasbourg, faire un meeting où il avait clairement appelé à ce que les Turcs se communautarise, ne cherche pas à s'assimiler en France. C'est quand même un énorme problème.
Certains ont dénoncé le défaut de solidarité européenne de la France dans cette affaire, puisqu'effectivement les Pays-Bas ont refusé, l'Allemagne a refusé, l'Autriche a refusé. C'est pas votre problème, ça.
Mais c'est pas mon problème. Mon problème, c'est la souveraineté de la France. Et c'est le respect que l'on doit à la France. Je veux dire, la France, c'est pas le paillasson de l'Europe, quoi. C'est incroyable.
Alors vous parliez des Pays-Bas, mais la décision de refouler donc les ministres turcs n'est pas totalement anodine. C'est aussi politique. Le Premier ministre néerlandais affronte en ce moment, c'était hier soir, pour les législatives, le leader de l'extrême droite, Geert Wilders, auquel le gouvernement ne voulait pas offrir l'occasion de laxisme. Donc c'est une décision aussi un peu dictée, c'est une décision un peu politique.
Et
à chaque fois que la droite ou la gauche traditionnelle font acte de courage, c'est toujours pour défendre leurs propres intérêts électoraux. Quand vous avez cette grille de lecture, je peux vous assurer que vous ne vous tromperez, en l'occurrence, jamais. Geert Wilders n'est pas d'ailleurs d'extrême droite. Geert Wilders est un patriote qui est opposé à l'immigration.
Le mauvais populisme, dit le Premier ministre hollandais.
Oui, d'accord. Enfin, là, vous pouvez toujours dérouler l'intégralité des injures qui sont délivrées à chaque fois que quelqu'un dans un pays s'oppose à l'immigration massive, il est traité de populiste, de raciste, de xénophobe, etc. Il est opposé à l'immigration. Est-ce qu'on a le droit d'être opposé à l'immigration sans se faire insulter? C'est ça la vraie question qu'on aurait dû se poser depuis déjà une bonne vingtaine d'années.
Le Premier ministre néerlandais disait hier, juste avant le débat télévisé précisément avec Geert Wilders, on peut dire que ces élections, celles qui auront lieu demain, sont les quarts de finale pour essayer d'empêcher le mauvais populisme de gagner. Les demi-finales,
C'est quoi le bon populisme?
Alors, c'est le Premier ministre néerlandais. Les demi-finales, ce sera en France en avril et en mai. Et la finale en Allemagne en septembre. Est-ce que vous avez l'impression, vous, qu'une victoire de Geert Wilders serait pour vous, donnerait un élan à votre campagne ?
Mais je veux dire, j'ai pas besoin de la victoire de mon ami Geert Wilders. Clairement, il y a au sein des peuples européens un rejet maintenant massif de l'Union européenne et de ce qu'elle représente. La mondialisation sauvage, les délocalisations, la désindustrialisation de nos pays, l'immigration massive,
c'est un pays qui
la
va
mise
bien.
En
mais
danger
oui.
des peuples.
Les Pays-Bas
peuples.
Sont un pays qui, enfin, ça va très bien du point de vue.
La mise en danger des peuples, non, ça va pas très bien.
Et un pays tolérant,
vraiment pas si mal.
Écoutez,
mais du point de vue économique.
Mais écoutez, non mais d'accord, c'est un pays surtout qui subit une immigration absolument massive, qui est en prise, comme la France d'ailleurs, avec le fondamentalisme islamiste, comme la Belgique, comme l'Allemagne. Voilà, là les peuples ressentent cela et ils voient bien que l'Union européenne a échoué. C'est l'Union européenne, c'est la multi-insécurité, insécurité territoriale, insécurité migratoire, insécurité physique, insécurité économique, insécurité sociale. Est-ce qu'on referme cette parenthèse, ou est-ce qu'on continue, et si on continue, jusqu'où ? Jusqu'au désastre final ?
Alors, on va parler de l'Europe, à moins que vous ayez une autre question.
Non,
alors, toute l'ossature de votre programme, Marine Le Pen, tourne autour de la sortie de l'euro. Vous dites, à longueur de meeting, que vous voulez rendre la parole au peuple,
non,
vous dites l'écouter, l'ausculter. Bah, votre slogan, c'est au nom du peuple, si je ne m'abuse.
Oui, mais c'est pas autour de l'euro, c'est autour de au nom du
non,
peuple.
Tout découle. Non, mais d'accord.
C'est autour de la souveraineté.
Voilà.
La restauration de la souveraineté pleine et entière.
Exactement.
Exactement. Il n'y a pas que la souveraineté monétaire.
Non, mais ça, on va en parler. Mais quand même, quand on voit les sondages, quasiment tous, et je vous cite le dernier, Elab pour les Échos et l'Institut Montaigne, paru vendredi.
Ah, l'Institut
indique...
Montaigne, le retour.
Alors, vous allez
le retour
nous dire
de l'Institut
que...
Montaigne.
Bah, écoutez, hein, voilà. En tout cas, c'est un institut sérieux.
C'est un institut totalement politisé.
Bon, oui, c'est un think tank de droite, on va dire.
Ah non, mais
bon.
Totalement politisé. Pardon.
Bah, d'accord. Donc, ce sondage indique que 2 Français sur 3 veulent garder l'euro. Seuls 28% sont plutôt favorables à en sortir. Donc, si on lit ce sondage, vous n'allez pas, vous allez contre la volonté du peuple, puisque le peuple ne veut pas sortir.
Moi, je suis candidate à l'élection présidentielle, vous voyez. Je suis candidate à l'élection présidentielle.
Voilà.
Donc je ne détermine pas mon projet en fonction des sondages.
Non, mais oui.
Mais ça, c'est Macron qui fait ça, et encore, bon.
Bon, enfin, quand les sondages vous mettent en tête au premier tour, vous êtes contente.
Non, mais je ne détermine pas mon projet en fonction des sondages. Moi, je dis, les Français ont été privés du débat sur la souveraineté, leur souveraineté, et notamment du débat sur l'euro. Ce débat n'a pas eu lieu. Il y a les tenants d'une vision religieuse de l'euro, et il y a les autres qui ont le plus grand mal à s'exprimer sans se faire rabrouer, humilier, traiter avec mépris, etc., etc. Si je suis élue présidente de la République, va s'ouvrir enfin, et je crois que c'est une très grande chance pour la France, et pas seulement pour la France, pour l'Europe entière, le débat sur l'euro. Le bilan de l'euro, les méfaits de l'euro, la capacité de mettre fin à cette expérience, mais c'est l'ensemble des pays qui vont pouvoir se saisir de ce débat, parce que les peuples, ils sont conscients des méfaits de l'euro, mais évidemment, on leur fait peur, d'ailleurs, ils ont théorisé c'est la stratégie de la peur. On essaye de leur faire peur en leur disant c'est terrible
mais
pour
c'est
vous,
un toboggan,
c'est terrible pour vous, mais vous pouvez rien faire.
Est-ce que dans ce débat que vous évoquez, dont vous dites qu'il serait salutaire pour la France et pour d'autres pays européens, est-ce qu'une autre issue que pour la France l'abandon de l'euro et le rétablissement de la monnaie nationale, le franc, est-ce qu'une autre issue est imaginable?
Objectivement, beaucoup essayent de voir d'autres issues, mais en réalité, ils tablent sur un accord de l'Allemagne que l'Allemagne ne donnera jamais, ou sur, pire encore, un accord des 27 que les 27 ne donneront jamais. Bon, donc moi, je crois qu'il faut être raisonnable. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on peut obtenir par la négociation le retour au peuple français des souverainetés qui lui appartiennent. C'est ça la réalité. Et je pense que dans cette négociation, la France ne sera pas seule. La France sera le leader et d'autres pays se précipiteront parce que eux aussi souffrent beaucoup de la perte
donc
de leur souveraineté territoriale.
Donc il y aura un effet
domino,
ce sera quoi ? Ce sera l'Italie, l'Espagne ?
Oui, bien sûr, la Grèce, le Portugal, c'est-à-dire des pays qui se sentent trop faibles individuellement peut-être pour mener cette négociation.
Donc on est faible. Donc ça veut dire que si...
Non, qui se sentent, eux, trop faibles pour mener cette négociation, mais qui, lorsqu'ils verront qu'un grand pays puissant comme la France prend la tête de ces négociations, très évidemment, en profiteront pour se mettre autour de la table et pour négocier avec l'Union européenne qu'elle rende au peuple ce qui, encore une fois, appartient au peuple. Le droit de décider qui entre et qui se maintient sur le territoire, ça appartient au peuple. Le droit d'avoir, de décider de son budget, ça appartient au peuple. Le droit de faire du patriotisme économique, ça appartient au peuple.
Mais la question qui taraude, auquel vous avez répondu 150 000 fois, mais la répétition fait partie de la pédagogie.
C'est vrai.
Si vous arrivez au pouvoir le 7 mai, comment vous faites pour éviter un mouvement de panique qui serait anticipé par, je sais pas, avant le second tour, et éviter une fuite des capitaux dans ce temps de latence pendant lequel vous dites vouloir négocier avec Bruxelles?
Moi, je ne crois pas qu'il y aura ce mouvement de panique.
Vous ne croyez pas, mais vous en êtes
pas sûr. Parce que je pense que souvent, quand des mouvements de panique comme ça sont intervenus, en fait, ils étaient totalement artificiels, c'est-à-dire organisés par les marchés financiers. Je pense que les marchés financiers n'ont pas trop intérêt, compte tenu de l'interpénétration des banques mondiales aujourd'hui, à jouer la panique bancaire. Ils risqueraient de se tirer une balle dans le pied, vous voyez. Donc moi, je ne crois pas à ça. Mais s'il s'avère que les marchés financiers décident de déstabiliser en réalité notre pays ou d'ailleurs l'intégralité de la zone euro, alors il faudra prendre des mesures qui avaient été prises d'ailleurs à l'époque de l'arrivée au pouvoir de M. Mitterrand, qui peuvent passer par une forme de contrôle
d'échange. Mais ça, on peut le faire quand on est au pouvoir.
Bah, vous êtes en train de me mettre dans l'hypothèse où j'ai gagné.
Oui, mais il y aurait une anticipation, il y aurait une panique avant peut-être votre élection.
Ah, pour empêcher mon élection. La stratégie.
Non, pas pour l'empêcher. C'est-à-dire que le mouvement de panique de la fuite des capitaux pourrait être anticipé si vous approchiez du pouvoir.
On s'est battu. Des générations entières ont été sacrifiées pour que nous soyons un peuple libre. Et aujourd'hui, nous nous laisserions intimider, influencés par des marchés financiers dont nous savons que leurs intérêts sont contraires à ceux du peuple. Il faudra résister à cela, parce que c'est une forme... Si cette guerre était menée, ce que, encore une fois, ce dont je ne suis absolument pas sûr, mais si cette guerre était menée, alors c'est une guerre contre la souveraineté, c'est une guerre contre la liberté, c'est une guerre contre l'indépendance.
Votre ami Poutine, si la France n'est que cette petite France, est-ce qu'il ne va pas nous écrabouiller avec son pouce?
Mais la France n'est pas.
S'il n'y a plus cette Europe.
Non, mais l'Europe est une accumulation de faiblesses. La France est faible de l'Union européenne, car la France est un grand pays, très fort, très puissant et très écouté dans le monde, très scruté dans le monde, car regardez, tous les regards convergent sur la France. Pourquoi?
Oui, vu notre campagne.
Les regards convergent vers la France parce que ils voient là.
La progression dans les sondages est particulièrement suivie.
Mais bien sûr, pourquoi? Parfois avec inquiétude. La possibilité d'une autre Europe que cette Union européenne.
Alors, Marine Le Pen, sur le mode opératoire, chez Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui lui aussi veut renégocier et éventuellement partir, on dit...
J'ai jamais entendu dire ça, vraiment.
Moi, j'ai entendu très clairement, puisqu'il l'a dit en face de moi la semaine dernière, l'un de ses économistes, Jacques Généreux, pour ne pas le citer. On va dire à Bruxelles, disent-ils, soit on fait autrement, soit on fait comme on veut.
Donc en fait, ils finissent par dire la même chose que moi.
Cette formule-là, vous la reprendriez à votre compte. On fait autrement ou on fait comme on veut.
Oui, sauf que moi, je dis pas on fait comme on veut, je dis on fait comme le peuple français veut, puisque ce sera sanctionné par un référendum.
Mais est-ce que finalement, c'est pas une manière de dire soit on fait comme on veut, soit on fait comme on veut? Parce que le autrement, c'est déjà comme vous voulez.
Il est évident que le autrement, c'est comme le peuple français le souhaite.
Oui, donc c'est soit on fait comme le peuple français veut, soit on fait comme le peuple français veut.
Exactement.
Donc vous arrivez en sachant...
Exactement, parce que c'est le peuple...
Il n'y aura pas de marge de négociation avec vous.
Parce que le peuple a toujours raison.
S'il vote pour vous...
Est-ce qu'il y aurait une marge de négociation avec vous? Est-ce que vous seriez prête à des concessions?
Mais est-ce qu'on peut faire des concessions sur sa liberté? Est-ce qu'on peut être à moitié libre? Un quart libre, un tiers libre. On est libre ou on ne l'est pas. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois, il n'y a pas de coopération dans le cadre de cette nouvelle Europe. Il y a des projets,
il existe des régimes de semi-liberté,
des politiques. Eh bien, moi, je ne veux pas que le peuple français soit soumis à un régime de semi-liberté. Je pense que sa liberté, il l'a encore une fois payée extrêmement cher dans son histoire et qu'il y a droit. Et que par conséquent, tous ceux qui souhaitent le priver de cette liberté, moi, j'en tout cas, sont des adversaires politiques.
Il nous reste peu de temps et dans votre programme, vous voulez supprimer la double nationalité pour les extra-européens. Est-ce que ce critère extra-européen n'est pas une façon de cibler, sans le dire, les pays du Maghreb et de l'Afrique? Vous disiez tout à l'heure, il y a un patriotisme un peu hypocrite de la part de la droite, etc. Est-ce que vous, c'est pas un peu hypocrite?
Non, c'est une manière de dire que moi, je crois à l'Europe. une autre Europe que celle qui est aujourd'hui dirigée par l'Union européenne. Je crois en l'Europe. Voilà, je crois.
Mais du coup, le critère extra-européen, il se fonde sur quoi? C'est plus l'Union européenne dont il est question.
Ben voilà.
C'est le continent européen.
Eh bien, peut-être, oui. Tous ceux qui voudront participer à cette nouvelle Europe, tout en restant des nations libres et qui voudront coopérer dans cette grande Europe. Je tiens à dire d'ailleurs que cette interdiction de la double nationalité n'est pas rétroactive. Voilà. Hein, donc elle s'appliquera.
Elle ne concernerait que les.
Elle s'appliquera pour le futur.
Vous n'êtes pas un peu rattrapé aux branches là sur cette affaire, parce que
non, parce que semble-t-il,
on a l'impression que vous avez un peu rétropédalé.
Non, mais la question ne m'avait pas été posée, mais vous savez très bien qu'en toutes circonstances, nous sommes plutôt opposés à la rétroactivité.
C'est la fin de cette émission, qu'il faut le dire.
C'est
clairement et sans détour. Merci Marine Le Pen et Mardi Politique revient mardi prochain, évidemment.
Oui, absolument. Et merci à Audrey Yatoni et Pauline Hellmann d'avoir aidé à faire cette émission. Et puis, bien sûr, à toute l'équipe technique. Merci à vous. Merci Frédéric. Merci Marine Le Pen.
Merci.